La légende de Candyman a changé. Fini l'origin story sous fond d'abeilles, de torture et d'esclavage. Ici, des ombres chinoises nous racontent que dans un vieux Chicago, un homme distribuait des Kinder Surprise aux enfants. Un bonbon et en cadeau une petite lame de rasoir qui fait son effet. Mais l'homme a été attrapé, torturé et tué par la police. Cette légende urbaine plaît à notre hipster Yaya, au point que l'artiste se sent connecté à cette légende urbaine. D'autant plus qu'il est le gamin du premier film de 1992, ce qui fait un peu sens. Obsédé par ce lien et piqué au poignet, il se transformera en grosse abeille qui pique en mode Cronenberg. Le hipster deviendra un hipstueur au gros dard qui chantera du Destiny's Child à tous les coins de rue. Et qui fera un crochet par la case Psycho. Ne l'appelez plus Candyman, mais Yaya l'abeille. Yaya l'abeille. Yaya l'abeille.
Arrête.
Yaya l'abeille.
Arrête. Arrête. Arrête.
Arrête. C'est le du Yaya.
Voilà, ça c'était l'histoire qu'on s'était imaginée après s'être fait des films dans la BA du dernier film de Nia DaCosta dans notre épisode numéro 60. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai? Douille ou pas douille? Et nos avis? Et ceux de la presse? C'est parti pour le match retour de Candyman.
DJ, kick that shit.
Ça te fait mal quand on te tire dessus?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération?
Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de techniques. T'es nul!
Bonjour et bienvenue dans le match retour de Candyman, le dernier film de la réalisatrice Nia DaCosta et produit par Jordan Peele, le papa de Get Out et Us, entre autres. Avec moi, autour de la table, pour revenir en avis sur ce film, mon essaim d'abeilles, mes petites abeilles à moi.
Vous êtes ma belle ruche.
Que j'invoque via le miroir. Johanna, qui est là. Salut Jojo.
Salut.
Ça va Jojo?
Toujours.
Clément, qui est là aussi.
Bonjour.
Bonjour.
Ça fait cinq.
Clémence.
Je me manifeste.
Kevin. Et peut-être encore un Kevin, j'ai pas compté.
Kevin.
Dans le doute. Kevin qui est là. Et Erwan. Salut Erwan. Plus on dit Erwan.
Erwan,
comment estás?
Ah
si.
Ah si.
Les Erwan est devenu une Juan que je connais depuis qu'il est petit. Non, mais pff, ça part déjà en couille.
Et bonjour.
Voilà, Erwan qui va refaire son premier match retour de la saison 3. Alors, si vous comprenez pas grand chose à ces présentations, je vous renvoie à l'épisode
50-60
quand même. Oui, où on faisait la BA de Candyman. On va partir sur nos avis. On a l'histoire à résumer, on a le douille ou pas douille, on a la revue de presse, il y a tout ça. Mais avant toute chose, où est-ce qu'on va se situer niveau spoil dans ce match retour? Parce que évidemment, ça risque de spoiler un peu. Et pour ça, on a le calculateur qui va nous dire à combien s'élève le taux de spoil de cet épisode. Salut le calculateur.
Bzz, les abeilles.
Salut le calculateur.
Le taux de spoil dans cet épisode sera de... 100%.
Waouh, c'est vraiment beaucoup.
Non,
on va dire tout ça.
Ce don de voyance pour cet ordinateur.
Il a
assez
un don
incroyable. Mais oui. C'est un ordinateur fantastique. Disons-le. Le film Candyman raconte forcément une histoire.
Ouais.
Qu'on appelle forcément scénario.
Il y a une histoire.
Qu'est-ce que ça raconte? Parce que notre histoire imaginée n'était pas forcément très très proche de la réalité. Alors, pour cela...
La roue de la chance.
Oui, la roue de la chance.
Je vais désigner quelqu'un au hasard.
Effectivement.
Oh, putain,
c'est...
Vache, ça a tellement changé.
Ah non, mais il y a de la technologie.
Tu découvres des choses là.
La roue de la chance.
Vous voulez pas qu'on appelle ça la roue de la malchance?
La roue de la malchance.
La roue,
si on appelle ça juste la roue.
La roue.
Bah, la roue de la chance, hein, c'est notre copain El Calculator qui maintenant a une fonction qui permet justement de désigner totalement au hasard. Comme ça, il n'y a plus de suspense et il n'y a plus de jalousie. Hein, pour savoir qui va résumer le vrai film, la vraie histoire de la vraie réalité. Allez, on lance la...
Roue de la chance.
C'est parti.
Romain.
Ça tombe sur le taulier.
Putain de sa mère, c'est vraiment une connerie cette roue de la chance. Là. Ah, c'est ça, pchou, vas-y, casse-toi. Va.
J'adore comment il se dédouane.
Je déteste
sur toi,
résumer, vous savez déjà. En plus, ce film-là, j'ai déjà un peu oublié. Donc, ok. Alors, Candyman, version 2021 par Nia DaCosta. Premier acte.
Intérieur nuit. Anthony et sa femme.
Une abeille. Anthony et sa femme. Alors oui, Anthony McCoy, un artiste de Chicago hein, qui habite l'ancien Cabrini Green, si j'ai bien compris, qui est en fait le lieu où se passe l'action de Candyman 1992, sauf que c'est plus un ghetto de noirs, c'est un ancien ghetto de noirs qui a été gentrifié.
C'est Barbès aujourd'hui, quoi.
C'est Barbès.
C'est Barbès
un peu. Ça se bobofie. Et du coup, ça reste quand même dans cette zone-là. Et ce gars-là est un artiste. Il vit avec sa femme qui apparemment est galeriste. Enfin, en tout cas, un peu la manager quoi, de sa carrière. Ça va, ils sont bien. Hein. Ils ont un bel appart. Ils ont une grande cuisine. Ça va. Et attention, ça rapporte le pain à la maison. et donc, non, ils sont bien. Et puis un jour, pendant un repas avec le frère de la sœur de sa femme, non, pas du tout.
Le frère de sa femme,
tout simplement. Tout. on lui raconte l'histoire de ce petit garçon. On ne m'a pas donné de nom encore, mais ce petit garçon qui aurait été sauvé des flammes en 1992 par une certaine meuf, Helen Lyle, qui serait devenue complètement psychopathe parce que c'était une thésarde de l'université qui menait une enquête sur le Candyman de l'époque. Donc il va mener son enquête, on va lui raconter que le Candyman c'était un gars qui distribuait des bonbons, de lames de rasoir, machin nanin. Et ça c'est quand il va rencontrer Coleman Domingo, le gars de la laverie. Et Coleman Domingo c'est le mec qui joue dans Euphoria, qui joue Ali. Qui va du coup l'ambiancer pour continuer à devenir... continuer son enquête sur le Candyman. Sauf que ça va le prendre d'obsession et il va vouloir du coup relancer sa nouvelle exposition autour de Candyman, autour de Cabrini Green, le quartier de Candyman, donc en remontant un peu le temps et tout, et avec un système artistique par ce miroir où il faut dire 5 fois le nom Candyman et tout, etc. Cette œuvre va prendre un peu plus d'ampleur parce que forcément les gens vont se lancer à dire Candyman devant le miroir. Ça va créer le bordel et puis le gars bzzz, va se transformer en grosse abeille et puis fini capoute. Entre temps, on va apprendre qu'il n'y a pas eu un seul Candyman mais plusieurs.
Donc les Candyman.
Les Candyman.
It's Candyman.
Voilà, je sais pas si c'était très bien résumé.
Ouais, si, il y a tout.
Il y a un peu tout.
Il y a tout, il y a même la fin.
Non, c'est bien.
En fait, pour résumer, c'est un artiste qui fait une installation artistique autour de Candyman et ça relance la légende urbaine et ça part en couille.
Ah voilà, bah ouais. Voilà. Mais pourquoi tu m'as désigné moi
Clément.
C'était mieux, on a gagné 3 minutes. Ok, ben, douille ou pas douille.
Hein, quoi.
C'était une douille.
Douille ou pas douille,
de Candyman, qu'est-ce que ça donne par rapport à Sabéa, le film, et puis ensuite on va dériver sur nos avis. Tour de table, Erwan, douille ou pas douille.
Méga douille.
Toi t'étais pas avec nous, mais comment t'as reçu la BA du coup?
Méga douille, parce que bah, quand j'ai vu la BA, comme vous, je pense qu'on s'est tous dit, tiens, on va avoir un slasher. On allait voir un film, voilà, un film d'horreur en fait finalement. Enfin, voilà,
un slasher,
il allait avoir un méchant, il allait falloir échapper à ce méchant, comprendre aussi d'où est-ce qu'il vient, comprendre un peu son histoire, tout ça. Et en fait,
c'est de la merde.
En fait, c'est... Non, mais j'ai pas compris. J'ai rien compris au film.
On va t'expliquer, reste avec.
J'ai vraiment rien compris. Bon, après, je sais pas si je peux développer, mais...
Tu peux toujours pas développer tant qu'on n'a pas fait le tour de table.
Et bah, je vais rester là.
Parce que...
je vais
quand même développer.
Clémence. Alors là, c'est le moment où on compare Béa et film. Clémence, douille ou pas douille?
Alors, je me méfiais, mais... C'est une grosse douille.
Ça mérite d'être.
Et tu avais raison.
Je ne me suis pas assez méfiée. J'ai pas trop aimé le film.
l'autre coloc, Kevin, douille ou pas douille?
Ouais, c'est une douille ambiguë, autant...
La vente des douilles.
Douille ambiguë.
C'est clair.
C'est une douille ambiguë.
Douille vague, floue.
C'est une douille ambiguë. Autant je m'attendais à voir un film avec des bonnes scènes de gore, et puis il y a des scènes gore qui m'ont amusé, mais je m'attendais pas à ce que ça soit con.
C'est un point. Ok, très bien. Johanna, douille ou pas douille?
Alors pour moi, c'est une douille et pas douille. Oh. C'est-à-dire que c'est une douille parce qu'on voit un film d'horreur, je suis en train encore de chercher l'horreur. Et le pas douille, c'est parce que je n'en attendais rien et j'en attends toujours rien.
Ça nous rend tellement philosophes.
Ouais. On est sur une bonne moyenne.
On va se suicider à la fin de tout ça. Clément, douille ou pas douille?
Ah, c'est une méga douille.
Bon, ben méga douille.
J'ai trouvé ça catastrophique.
Catastrophique, ah ouais, ouais, carrément, le mot est lâché. Oh, vous êtes un peu dur.
Non,
les
toi,
non, douille, évidemment, c'est une douille. Parce que bah, déjà, douille dans le sens où si je compare vraiment la BA au film, bah, on avait un peu débunk, nous, l'histoire de Anthony, machin, là, là, parce que finalement, en fait, c'est le bébé de 1992 qui s'appelle Anthony. En plus, on voit la mère dans la BA qui est la même actrice que dans le film de 1992, je veux dire, en termes de surprise...
Mais ça, j'arrive pas à y croire.
Je veux dire, alors que c'est censé être le twist un peu du film, je veux dire, tu le vois venir à 3000, en plus, quand t'as capté le truc, tu fais, bon, ok, super, je veux dire, on n'est pas les seuls connards à avoir fait le lien, tu vois, donc j'imagine qu'il y en a plein qui sont déçus comme ça. Et puis, douille aussi pour ce que représente le film, le fer de lance de Jordan Peele, il est honorable, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que je trouve qu'il y a...
Il y a
un lâcher-prise dans le film où, justement, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de prendre l'histoire de Candyman pour raconter ça?
C'est ça.
Je pense pas. Il a réussi à faire des histoires originales comme Us ou Get Out pour pouvoir justement défendre cette cause de discrimination raciale. Bref, tout ce qui est la lutte des blacks quoi, encore aujourd'hui. Sauf que là, je trouve que dans le film, c'était vraiment aux F, quoi. Ça m'a sorti un peu du truc. Tu comprends la métaphore. Tu comprends le bordel, que ben, c'est cyclique, c'est la violence cyclique, il n'y a pas un Candyman, il y en a plein, et à chaque fois, tu vois, c'est la même histoire. Il y en a eu un pendant, je ne sais plus comment il s'appelle, Robitaille, là, enfin bref, le gars. Parce que l'histoire, du coup, de Candyman de 92, elle existe. L'histoire des bonbons avec les lames de rasoir, il y en a eu d'autres aussi. Et le mec te dit, en fait, c'est tout le temps que ça arrive, quoi. Tu comprends vite la métaphore et le parallèle entre les violences policières et tout ça, quoi. Donc c'est bien, en soi, mais j'ai trouvé le film... Bah, tu vois, j'ai pratiquement déjà oublié le truc. Donc, je suis déjà dans les avis.
Oui,
tu as
donné son avis, les gars.
Mais t'as lancé, t'as
c'est
lancé
déjà son avis.
Voilà.
Peut-être que voilà. Non, après, qualité du film, c'est que 1h30 de film. Ça, c'est assez rare.
Ah, ouais, ça, c'est très appréciable.
Content, voilà.
Je me suis ennuyé quand même.
J'ai pu me coucher tôt, quoi. J'étais fatigué en plus.
Je l'ai fait sur une pause déj.
Nous, on était refait. On est sorti de la salle, il était 22h. On était
trop bien.
On s'est fait un gros domac. Non, mais voilà, après je trouve que le film en soi, parfois il a des allures de chair de poule, quoi. Tu dis, mais what the fuck? C'est vraiment. Je sais pas les mots, quoi. À part Osef, il n'y a rien d'autre qui va me sortir, quoi. Mais tu comprends, oui, cette histoire d'éternel cycle de la violence. Et puis le gars, Coleman Domingo, qui représente un peu l'essence un peu des Black Panthers à l'époque où on répond à la violence par la violence, quoi, où tu sens qu'en fait jamais tu vas t'en sortir, c'est ultra cyclique et tout. Donc une fois toutes ces métaphores faites à ça, tu fais bon, ok, j'ai compris le message et tout, est-ce que ça va le coup de passer par Candyman? Ouais, j'en suis moins sûr. Voilà, et le film est un peu dégueu, quoi.
Je veux bien donner mon avis derrière toi.
Ben oui, tu peux. Je t'autorise.
Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'élargir en plus au fait que c'est censé être un slasher et à ce genre. Et moi, ce que j'attends de ce genre de film, c'est soit de m'amuser. Un exemple, c'est ne serait-ce que le dernier remake de Child's Play, Chucky,
ouais.
Qui était très jouissif, très, très fun. Si, il était très fun.
Ouais, moi non.
Tu t'amuses parce que c'est créatif, dans les morts. Ouais. Voilà. Là, j'ai pas eu ça. Ou alors, je m'attends à, comme des films comme a pu faire Jordan Peele, mine de rien, avec Get Out notamment, à être un peu perturbé, un peu dérangé et que le propos porte réellement. Et du coup, j'ai pas eu ça non plus. Donc voilà, j'ai été ni dérangé, ni amusé. Je suis restée un peu de glace face à ce film. Et j'ai surtout vu tout ce qui m'a énervé, c'est-à-dire des tics de mise en scène, d'éthique des ingrédients en fait de ce qui marche en ce moment dans ce genre de film. Donc ça commence par le générique de début avec la musique, les voix qui chantent
comme dans Us.
Pas comme ça.
Ah si, c'était ça la musique de
non,
début.
Non, c'est des voix dérangeantes en mode tribal un peu
générique.
Ah, quand comme tu vois les images.
Ah oui, le générique à l'envers en plus, comme dans la BA et tout.
Et je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est comme dans Us, ça m'énerve. Au bout d'un moment, ça marche plus en fait. T'as plus l'effet de surprise, ça te fait pas d'effet. Les jumpscares, toujours. Ouais, parce que temps. Ça m'énerve en fait. C'est depuis Blumhouse et tout. Il y avait des jumpscares, c'était un peu le truc pour faire peur. Ça a marché un temps. Là, maintenant, ils te font peur avec le gars qui a son verre vide et qui dit. Ouais. Mon verre de rosé est vide. C'est ça le jumpscare.
Ça fait super
c'est
peur.
Parce qu'il fait... Après, t'as une branche. En fait, le héros marche sur une branche dehors et le bruitage de quand il écrase
ça
la branche est
aussi,
ultra
putain.
Fort. Et c'est ça le jumpscare.
Surtout qu'on le voit bien appuyé avec tous ses muscles. Quoi.
Non, mais ça n'a aucune cohérence. Et l'autre jumpscare que j'ai relevé, c'est une transition sur le métro. Le métro qui arrive. Le bruit du métro, quoi.
Il y a un métro ?
Oui, à un moment, t'as un petit truc dans un métro et en fait, la transition te mène vers ce bruit de métro et c'est ça qui te fait sursauter.
Je dormais à moitié.
T'en as un dans le noir à la fin aussi.
En fait, je trouve ça vraiment, mais c'est le degré zéro maintenant de la tension et du jumpscare.
T'as pas trouvé qu'il y avait des petites astuces de mise en scène qui étaient intéressantes, notamment avec tous les reflets,
si,
les
si. En fait, le seul truc que je retiendrais, c'est les jeux avec les miroirs dans certaines scènes de meurtre, ouais. De crime. Mais en fait, ce qui m'a vraiment, vraiment énervé dans le fond, et ça revient à ce que tu disais par rapport aux propos, par rapport aux noirs et aux violences policières, etc., c'est que j'ai un peu ressenti ce truc de contextualisation du héros qui est un artiste dans ce nouveau quartier refait, très aisé, très bobo, comme tu disais. Et en fait, ce milieu, moi, dans un film américain comme ça, ça me fait le même effet que quand tu vois un film français à la les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et que c'est très bourgeois parisien. C'est qu'en fait, ça ne me touche pas, ce milieu, tu vois. Ça me fait regretter les anciens slashers où c'était vraiment dans des quartiers résidentiels moyens, classe moyenne, tu vois, des lycéens, des gens comme nous. Et là, en fait, moi, je me projette pas avec un mec qui est très hipster, très artiste, avec sa nana qui est galériste. Limite, tu comprends pas comment ils gagnent leur argent pour avoir cet appart. Leur appart est incroyable. Et j'avoue. En fait, ça me donne pas d'empathie vis-à-vis d'eux. Et surtout, ça m'amène à... le gars, ok, il est passionné par le Candyman et ça ramène à des histoires de violences policières et tout. Mais en vrai, tu te dis, c'est parce qu'il vit lui. Enfin, ok, il est Renoir, mais en vrai, est-ce qu'il est confronté à ça? Et du coup, il s'y intéresse, mais est-ce qu'il s'y intéresse pas un peu de loin? Et voilà, je trouve que même, je me demande si la réalisatrice, j'ai rien contre elle, mais je me demande si elle a du recul, elle, sur ce milieu qu'elle dépeint, tu vois, de ses
même
personnages
en,
et de ses
en héros. En termes d'empathie, là, tu parlais de l'empathie, même les personnages, entre eux, ils n'ont pas d'empathie, quoi. Je veux dire, il y a son collègue de toujours, apparemment, qui crève, le mec de la galerie, là,
alors,
et tout.
Je sais pas si vous avez remarqué,
il s'en bat les couilles, le mec.
Aucun personnage n'a l'air d'avoir de gros liens les uns avec les autres, parce que... finalement, on comprend que c'est un couple, bon, elle peut le quitter comme ça du jour au lendemain, tout le monde dit oui, t'inquiète, c'est juste une passade, tout ça. Ils n'ont pas vraiment de copains, ils n'ont pas vraiment de lien, même sa mère, finalement, il va jamais la voir. En fait, il n'y a jamais ce côté, genre, tu te dis que les personnages sont liés les uns aux autres, et du coup, il va y avoir...
Oui, parce que c'est ça que j'ai pas dit aussi dans le résumé, c'est que du coup, Yaya l'abeille, là, devient une abeille, quoi. Devient comme Zimane.
Non, il devient une ruche.
Oui,
il devient une espèce de nid d'abeilles avec plein d'abeilles.
D'ailleurs, on déconseille le film aux gens qui ont la phobie des trous, là. Je sais pas si c'est cette phobie,
Non, mais moi, ça me concerne un peu.
Il y a des gens qui ont la phobie des formes répétées, genre les ruches, par exemple, ces choses-là, parce que c'est vraiment sa peau, quoi.
Ouais. À part ça, moi, ce que je voulais dire, c'est que le problème de ce film, c'est que je trouve qu'il est pas fini dans tous les sens. Enfin, en fait, il veut aller vers des choses, mais il s'arrête très vite, ou alors il est trop implicite, ouais, pas assez explicite. Et en fait, c'est vrai que moi, je suis le genre de public qui a besoin d'être accompagné, hein, un minimum. J'aime bien quand on dit les choses, mais là, vraiment, tu vois, tu parlais tout à l'heure de la localisation, du fait que c'est des bourgeois dans un nouveau quartier qui a été gentrifié. Voilà, ça, le terme technique.
C'est vraiment un des mots qui est au centre du film, quoi, la
et
gentrification.
On a du coup le versus du coup quartier bobo contre les projects, quoi,
contre les ghettos,
les ghettos, la cité. Et en fait, tu ne vois jamais le ghetto. Tu ne sais pas en fait à quoi ressemblait le quartier avant. Enfin, tu vois juste quelques blocs, mais finalement qui sont complètement désertés, et en fait qui ressemblaient plus au côté luxueux des blocs que vraiment au...
Ouais, et c'est dommage parce que c'est vraiment ce qui est mis en avant dans la version de 92, justement.
Ah oui, et alors ça, c'est l'autre problème
que j'ai. Le fait
de voir
justement cette jeune femme là, Hélène, débarquer dans ce ghetto là où vraiment c'est la thermie, hein. Les mecs, il y a des tags au mur, il y a encore deux trois familles qui vivent dans des appartes miteux et tout, notamment la mère d'Anthony. Enfin, il y a vraiment, elle rentre dans l'enfer de la réalité pour ensuite devenir complètement folle et disparaître de cette réalité au point que justement ce sont ceux qui sont dans l'enfer de la réalité qui la comprennent plus, tu vois. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment une aspiration en plus poétique.
Pour le coup, elle était imprégnée par ce qu'elle voyait.
Ouais.
Et je pense que du coup, le principal problème de ce film, enfin pour moi en tout cas, c'est qu'il devrait s'appeler Candyman 2. Le problème, c'est que je n'ai pas vu Candyman le premier de 92. Je ne l'ai pas vu. Je ne connais pas l'histoire. Et en fait, même les références en fait, qu'ils font dans ce film-là, a priori, sont fausses par rapport au premier. Donc, en fait, moi, j'étais embarqué dans l'histoire de la nana blanche photographe qui devient le Candyman et tout. Et en fait, t'apprends plus ou moins à la fin que c'était pas vraiment le cas. Et en fait, je ne le savais pas vraiment. C'est finalement des personnes qui ont vu le premier qui me disent non, elle était juste possédée.
Toi, tu l'avais pas vu, le film?
Non, je l'avais pas vu.
Bah voilà, t'as rien compris en fait.
Ouais, mais du coup, moi en fait, j'y vais en me disant je vais voir un film à part entière qui n'a pas besoin d'avoir un univers. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir des connaissances pour pouvoir. Et en fait, bah, il s'avère qu'en regardant le film, je me suis dit mince, si j'avais vu le premier, peut-être que j'aurais eu plus de clés. Mais j'ai rien compris.
Et toi, Clément, t'as pas vu le film, donc pareil.
J'ai pas vu le film. Moi, enfin, de 92, je veux dire. Beaucoup plus dur que vous. J'ai trouvé vraiment ça raté, mais à tous les niveaux. J'arrive pas en fait à dégager une qualité du film, quoi.
Voilà, ça dure 1h30.
Je trouve ça intégralement raté, aussi bien en termes de photos, de scénarios, de jeux d'acteurs. J'ai trouvé qu'ils jouaient tous mal. J'ai pas compris le film, c'est-à-dire j'ai pas compris l'histoire du film et j'ai pas compris le fond. J'ai pas compris où ça voulait en venir. Alors que franchement, il y a de quoi faire. Enfin, tu représenter des blancs qui traquent les noirs, que ça soit la police ou j'en sais rien, il y avait vraiment de quoi faire des personnages horribles. Et que du coup, quand ils meurent, il y a un sentiment un peu jouissif et qu'on se dise ah ouais, c'est cool qu'ils meurent parce qu'ils sont méchants et tout. Mais là, j'ai même pas compris pourquoi il mourait, genre la galeriste, enfin la meuf du galeriste, j'ai pas compris qu'est-ce qu'elle avait fait de mal en fait, à part qu'elle a dit Candyman 5 fois devant un miroir, pourquoi elle meurt en fait, tu vois. Et je me suis dit sincèrement, si on inversait les rôles et que c'était un tueur blanc qui tuait que des noirs, le film serait ultra raciste. Et moi ça me dérange, sincèrement, je suis sorti du film, j'étais en colère parce que je comprends pas où ça veut en venir, à part la dernière séquence qui parle vite fait des violences policières. Mais sinon, le film n'est pas du tout social. Il n'y a pas du tout le côté comme dans Get Out ou dans Us, ce côté social et tout. Je ne l'ai pas du tout senti. Et sincèrement, j'ai été un peu effaré par le film, quoi. Enfin, je n'ai pas compris où ça voulait en venir. Alors peut-être qu'il faut voir l'ancien pour comprendre et tout, mais moi, ça ne m'intéresse pas. En fait, s'il faut voir un vieux film de 92 pour comprendre un nouveau film, enfin...
Oh, parle bien de Candyman 92, s'il te plaît.
Non, mais il est peut-être bien, tu vois, mais il n'y a aucun effort pour inclure le spectateur, en fait.
Oui, c'est en ça, fait, on est un peu délaissé, quoi.
Et c'était intelligemment fait dans Get Out.
Oui.
Parce que finalement, le propos du film est vachement intelligent et tu te rends compte que c'est du racisme inversé où, en fait, tu appuies sur des problèmes en faisant l'inverse, en fait, en montrant que les Blancs, en fait, veulent devenir noirs parce que c'est... une race supérieure, tout ça, voilà. Enfin, je trouve que c'est intelligent de traiter à ce propos, alors que en fait, finalement, Candyman dans ce film-là, c'est grossier. Tout est grossier, c'est-à-dire qu'en
c'est
fait,
maladroit, ouais.
Les flics meurent parce qu'ils tirent directement sur un mec, alors que tu sais pas pourquoi ils tirent,
ouais.
Parce que t'as pas de background sur les policiers, tu sais pas qu'ils sont violents eux, donc tu dis oh tiens, ils lui tirent dessus.
Bah, les blancs,
meurt,
c'est les méchants et les noirs, c'est les victimes.
Ouais, voilà. Ouais, mais en fait, c'est tellement basique.
C'est aussi
et tellement...
ce que tu disais, Clément, c'est que lui, il est jamais confronté à la violence systémique. En fait, c'est un
à part la critique,
c'est
qui...
un bourgeois, ouais, vite fait quoi. C'est un bourgeois qui peint des tableaux, qui va dans des galeries et tout. Il est un peu dans un milieu super bobo et tout. En fait, à quel moment il est confronté à ça, enfin,
rien, il a
pas,
un lien avec Cabrini Green parce que c'est le Anthony McCoy de le gamin de 92.
Mais
ça, ce qui est complètement con, parce que si t'as pas vu le film de 92, quand tu dis ils l'ont pas appelé Candyman 2, donc tu forcément, si t'es pas au courant que les films avant ils ont existé, notamment celui-là, le premier Candyman de 92, en plus c'est relié, c'est pas un reboot, du coup c'est pas un remake, c'est une suite.
Ouais,
une
mais
suite reboot quoi. Mais si t'es pas au courant de ça, tu vas voir le film, tu fais mais t'es largué,
mais
c'est complètement
con. Mais c'est une suite, mais a priori il y a des trucs qui sont dans le Candyman d'aujourd'hui qui ne sont pas dans l'histoire des bonbons au rasoir.
Ouais,
j'ai
rien compris, les bonbons, les abeilles.
Les bonbons au rasoir, là, il paraît que c'était pas dans le premier Candyman, donc du coup je suis un peu perdu.
Bah non, mais en fait voilà, c'est ça en fait.
En plus il y a des trucs nouveaux, donc c'est pas vraiment une suite, pas vraiment un reboot.
Non, mais l'idée qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont voulu appuyer justement sur cette idée de violence systémique. C'est juste ça, c'est pour ça qu'ils ont dit le Candyman c'est pas un mec, c'est une ruche. C'est-à-dire qu'en fait il y a toujours des Candyman.
Oui, il faut pas le voir ni comme un remake ni comme une suite, mais comme un pot pourri. C'est-à-dire que tu vois le côté les petites légendes racontées en théâtre d'ombre,
ouais.
Bah, c'est ça qui sert à te faire le pot pourri et à te dire oui, donc il y a eu ce cas-là, il y a eu ce cas-là, il y a eu
mais
les
même
ravoirs,
ça tu vois, je trouve que ça aurait pu être grave mieux exploité, le côté légende urbaine, genre chacun a un peu sa version du Candyman et tout, ça aurait pu donner des trucs de ouf, genre à chaque fois le monstre il est un peu différent et tout, mais non, c'est pas du tout
et
exploité.
À la fin, oh là là, on te ressort le Tony Todd là en mode CGI.
Ouais.
Dégueulasse.
Ouais, ils ont refait l'acteur de 92, c'est ce que j'ai compris aussi.
Ouais, laisse tomber.
Enfin bon, j'ai trouvé ça inintéressant.
Johanna, maintenant qu'on a bien craché sur le film, est-ce que toi aussi t'as envie de rajouter un peu de toi sur ce tas de crachats?
J'ai trouvé le scénario vraiment stupide. Mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'aucun des choix des personnages n'est justifié. J'ai vraiment un peu halluciné sur le scénario. Et même quand la femme du personnage principal, qui est un peu la seule personne, ils essaient de détourner, ça m'a fait un peu rigoler, le fait que dans les films d'horreur, les gens font toujours les choses qu'il ne faut pas faire. Donc elle veut pas dire 5 fois le nom de Candyman devant un miroir, elle veut pas descendre dans une cave parce qu'elle sait que ça craint et tout. Et ben au final, à la fin du film, elle fait tous les choix les plus cons qui existent que tu peux faire dans un film. Quoi. Du coup, je suis circonspecte.
C'est brouillon, quoi. C'est vraiment... Non mais cette fin est brouillonne, quoi. Je veux dire, tu sens qu'il y a le fantôme de George Floyd qui traîne ou des trucs comme ça. Tu vois, tu le sens vraiment. Je veux dire, ok, d'accord, j'ai compris, merci. Mais maintenant, raconte-moi un film, en fait.
Ou alors fais-le à fond.
Ou alors le fais pas sous l'angle de Candyman,
Après oui, il y a un truc positif à dire, j'ai trouvé qu'il y a des moments de mise en scène que j'ai plutôt apprécié. Avec certains, pas tous les jeux de miroir, parce qu'à un moment je trouvais ça très scolaire et très répétitif, mais avec ce qu'elle fait avec les miroirs et les hors-champs. Mais sinon, ouais, jeu d'acteur, j'ai vraiment pas aimé. Et il y a plein de scènes que j'ai pas compris, comme par exemple quand il tape une Corée devant le miroir chez la critique d'art avec le Candyman, là, j'ai pas compris.
Ah, moi, j'ai bien aimé cette scène pour le coup. Je trouve que c'est vraiment une des scènes qui me marque le plus, c'est quand il va chez la critique et qu'elle va dans sa salle de bain pour dire Candyman et que lui se retrouve dans le couloir face au miroir. Il voit que c'est peut-être lui. Enfin, que dans le miroir, il voit le Candyman alors que c'est censé être son reflet à lui. Ouais. Et ensuite, le Candyman disparaît, elle apparaît, mais on voit encore dans le Candyman en arrière-plan. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper
mais
bien.
Mais l'idée est cool, mais toute la scène où il fait cette espèce de choré pour comprendre que le Candyman fait les mêmes gestes que lui et que c'est éventuellement lui, j'ai trouvé ça raté. Quoi.
Oui, non, mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il va se...
Oui, c'est ça.
J'ai touché le visage alors qu'il a déjà fait tous les gimmicks finalement.
Faut arrêter maintenant, faut laisser la mouche de Cronenberg tranquille, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Il y a tellement d'inspiration. On a vu la nuée dans la saison 2 où c'était vraiment très Cronenbergien. Sauf que là, ça marchait. Hein. Il y avait un scénario original, quoi. Mais je veux dire, au bout d'un moment, les insectes, la transformation, c'est bon.
Mais c'est marrant la scène du miroir dont tu parles que toi t'as pas apprécié. Elle m'a fait penser à Shining.
Ah ouais.
Elle a un rythme beaucoup plus lent et la manière dont ils se regardent, ça m'a fait penser à dans Shining quand le petit Danny regarde les gamines deux, le couloir. Il y a ce côté très. Un truc en face de toi et. Bah en fait, tu vois, t'es en face, tu peux pas y échapper et tu regardes.
T'as raison en disant que c'est un pot pourri. Le problème, c'est que le pot pourri, au bout d'un moment, il pue, quoi. Ouais. Donc, et là, le problème, c'est qu'on a mis du Shining, on a mis du Kubrick, on a mis du Cronenberg. Tu sens que la meuf, elle a des inspirations et tout, forcément. Je veux dire, moi, tu me donnes une caméra.
On dirait un projet étudiant, en fait.
Tu me donnes une caméra avec un scénario qui est pas forcément le tien et tout, forcément, je vais avoir beaucoup de maladresse, tu vois, parce que t'as envie de faire comme les grands. Mais le film en soi, c'est que ça, quoi. C'est que des références à ça, Puis au final, les personnages, ils n'ont pas évolué. Alors aussi, à un moment, tu dis, lui, son père s'est suicidé, donc voilà, c'est pour. Je veux dire, c'est bon, implique-nous vraiment dans le truc.
J'ai même eu du mal à comprendre le propos au final du film, même si on comprend la métaphore et tout ça. J'ai pas compris comment le film se positionnait et ce qu'il voulait dire, au fait, là où il voulait en venir.
Et Kevin ? J'imagine que c'est tout pareil.
Non, mais en fait, vous avez raison. Enfin, j'ai l'impression, c'est comme quand tu vas à une disserte en DST que t'as pas révisé, quoi, ce film. Non, mais c'est
tu
vrai.
Tu copies sur le voisin, quoi.
Non, mais c'est vrai, c'est que en gros, t'as une idée, mais en fait, t'as pas assez réfléchi à ton sujet, tu l'as pas assez construit pour que ça fasse quelque chose de cohérent. Après, je veux pas mentir, moi, quand je regardais le film, j'ai eu pendant quand même les deux tiers du film un côté, c'est un film d'horreur slasher, c'est rigolo, c'est totalement con, mais c'est pas grave, il y a du gore, ça me fait rigoler. Tu vois, j'étais un peu en mode spectateur lambda, ça me fait plaisir de voir un slasher, j'étais content, quoi. Mais après, c'est vrai qu'une fois arrivé à la fin, que tu comprends le fond, l'idéologie qu'il y a derrière, tu te dis, quand même, soit elle a bossé son sujet, elle a vraiment des idées cheloues, soit elle a vraiment pas bossé, quoi. Parce que effectivement, il y a quand même ce sentiment de Candyman, il bute que des blancs, parce que c'est un peu combattre le racisme par le racisme. Pour moi, c'est pas forcément ce qui est le plus intelligent. Et surtout, je trouve que d'un point de vue juste scénario, c'est totalement con, quoi. C'est-à-dire que le plan du mec du lavomatique est totalement stupide. C'est-à-dire que son plan, c'est d'arrêter la violence systémique en créant de la violence systémique en permanence, quoi. Donc ça a aucun sens, en fait. C'est-à-dire que en termes d'intrigue, bah c'est totalement bancal, ça peut pas tenir. Et c'est super, et voilà, c'est super dommage parce que moi j'étais parti au début, je me suis dit ah ça se trouve c'est un film, en fait il y a pas de Candyman, c'est juste lui l'artiste qui supporte pas les critiques et qui va se mettre à tuer des gens en se servant de cette figure-là mythologique comme avatar de sa colère ou je sais pas quoi. J'étais en mode ah ouais d'accord, bah ça peut peut-être partir dans un truc un peu rigolo comme ça. Mais pas du tout, c'est juste ouais, c'est très premier degré, c'est très voilà comme
alors
je disais.
Alors que ça se prend méga au sérieux.
Ouais, ça se prend vraiment au sérieux, alors que moi je m'attendais, enfin au début je pensais que ça allait ressembler un peu au côté un peu déluré de Jordan Peele qu'il a souvent, parce que c'est quand même un mec qui vient de, il a coécrit le film, hein, c'est important de le dire je pense. Qui est quand même un mec qui vient de la comédie, et de la comédie un peu délire, un peu caca-proute, quoi, que moi j'aime bien, et je m'attendais à revoir un peu ça. Il y en a un petit peu dans Get Out aussi, tu vois, c'est ce qui donne le sel au film. Et au début, quand tu vois justement cette scène dans le White Square, donc dans la salle d'exposition, où justement les deux persos, bah, c'est des caricatures totales, ils sont butés de manière totalement gore et tout, et je me dis, ah bah, c'est rigolo! Tu vois, des persos caricaturaux qui sont butés, c'est rigolo, c'est un style en fait, ça se fait. Et je me disais, bah ça y est, le film, ça va être un peu ça tout le temps, et puis voilà, c'est peut-être que ça va être léger et qu'on va rester dans le premier degré. Et voilà, le problème, c'est que pas du tout. Et c'est, le souci, c'est qu'il y a, parce qu'elle a voulu, enfin, ils ont voulu, parce qu'il y a trois scénaristes,
trois
je crois.
Scénaristes, ouais.
Ils ont voulu mettre un propos là où il n'y en avait pas forcément besoin, ou en tout cas, cette figure-là. Pouvait représenter ce propos-là, mais de manière beaucoup plus subtile que
ouais.
ça. Là,
ouais,
c'est vraiment...
Ça se prend les pieds dans le tapis.
Voilà,
ouais.
C'est vraiment, ouais.
Et justement, pour revenir un peu à ce que je trouvais bête aussi dans le scénario, c'est qu'une fois que tu as compris dans le film, parce que c'est dit clairement que le Candyman représente la colère de toutes les personnes noires qui se sont fait tuer injustement par des Blancs, eh ben, tu sais que sa femme, il va rien lui arriver. Tu sais que le frère de sa femme, il va rien lui arriver, ainsi de suite.
Ah oui,
donc finalement, ouais. Tous les personnages auxquels tu pouvais éventuellement te raccrocher dans le film, tu sais qu'il va rien leur arriver du
ouais,
tout.
J'avais oublié ça.
Donc même à la fin, quand sa femme, elle est soi-disant
Superman
en danger, c'est ça. Quand elle est soi-disant en danger, tu sais qu'elle ne l'est pas du tout, vu qu'il va rien lui faire, puisque c'est dit dans le film.
Il y a des incohérences de fou, parce qu'effectivement, on t'explique à la fin. Et moi, j'aime bien cette idée que c'est un peu un personnage vengeur qui revient d'entre les morts pour venger les Noirs qui sont morts injustement. Mais le problème, c'est qu'on te dit aussi qu'il veut tuer le bébé noir du Candyman de 92. Mais pourquoi, si c'est un personnage qui défend les Noirs, pourquoi il voudrait tuer un bébé? Enfin,
en fait, ça n'a pas de sens.
Ça n'a aucun sens.
T'as l'impression qu'il veut être là pour se réincarner en permanence. Et enfin, moi, j'ai l'impression qu'elle a voulu nous dire un truc du style les Candyman veulent posséder des nouveaux corps pour être libérés. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs. C'est qu'au bout d'un moment, à chaque nouvelle génération de Candyman, le Candyman d'avant est libéré. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un propos un peu comme ça, quoi.
Ouais.
Mais c'est un peu stupide. C'est parce que la portée de la légende, elle a plus aucun sens, en fait. C'est que tout le monde est Candyman. Et puis, surtout, quoi. On te dit qu'il faut faire de la violence systémique en permanence pour l'éviter, ce qui n'a pas de sens en fait.
Ouais.
Et on oublie Helen Lyle, quoi. Parce que je veux dire, à la fin du premier Candyman, c'est un peu elle qui prend le crochet, quoi. Enfin,
bah
qui prend la relève. Et ça, totalement oublié. Alors qu'il y a vraiment, du coup, Helen, 5 fois dans un miroir à la fin, un peu par hasard, mais elle apparaît, quoi. Je veux dire, elle est là. Donc c'est un peu elle, un peu la relève de Candyman. Alors que là, totalement oublié, quoi. C'est vraiment genre en mode, on a oublié la blanche. Et le problème, c'est que le film, on a compris, tu vois. Je suis pas contre. Mais
fais le mieux.
C'est maladroit, ouais.
C'est
maladroit.
Fond,
et puis, laisse Candyman
tranquille.
Ouais, c'est ça,
ils auraient pu faire à fond.
Montre-moi des
flics
qui tabassent vraiment des noirs pendant une demi-heure, tu vois. Y a pas de soucis.
Fais un tueur de
flics,
en fait.
Non, pas que je veux voir des blacks se faire. Mais voilà. Montre-moi, en fait, mets-moi un contexte de violence.
Ouais.
Et là, je peux comprendre qu'il y a un vengeur.
Ouais.
Mais si tu me mets juste un bobo artiste qui comprend pas trop pourquoi est-ce qu'il arrive pas à développer son art, qui se fait critiquer vite fait par une critique, qui se fait malmener par 2-3 personnes, avec 5 lycéennes qui se foutent de la gueule d'une meuf parce qu'elle a vomi en soirée. Je veux dire, enfin, 6 mois, à chaque fois que je vomissais en soirée, on se foutait de ma gueule derrière et qu'il y avait 5 morts. Enfin, tu vois, c'est.
Bah, il y aurait plus grand monde dans le monde. Hein.
c'est qu'en fait, ça paraît très étriqué comme contexte. C'est que, en effet. Ça colle pas, ok, ils sont insupportables les gens, les caricatures
dans
d'artistes et de galeristes
dans
ce milieu, mais en vrai, est-ce qu'ils méritent ça? Non, ça ne colle pas avec le propos qu'elle a de violence.
Ils ont tué personne, parce que c'est des connards, c'est des connards.
Puis même
mais...
les mises à mort, moi je les trouve pas gore en vrai. Enfin,
on
a vu ça combien de fois de se faire ouvrir
mais
le cou.
C'est rigolo.
Enfin,
ça arrive tous les jours.
D'ailleurs, c'est la seule vraie mort que tu vois, parce qu'après tout le reste est hors champ.
Oui, c'est hors champ.
Il y a rien de montré, il y a rien de.
Je
trouve ça aucun intérêt.
Mais après, c'est vrai que je pense que le vrai problème aussi, c'est de vouloir. À mon avis, quand ils ont voulu faire ce film, ils ont voulu surinterpréter le personnage. Auquel le personnage, il véhicule des idées. véhicule des symboliques. Ok, mais en fait, il les véhicule de intrinsèquement, en fait. Juste le personnage, tout seul, les véhicules, il n'y a pas besoin de le surinterpréter. Tu pouvais faire un film slasher très classique avec un scénario de base. Il y a plein de films comme ça, avec une intrigue qui est très simple, et pourtant, ça véhicule des trucs de fou parce que la créature est tellement forte et elle a un bagage tellement puissant que ça marche, quoi. C'est le cas pour plein de sujets différents. C'est le cas de Michael Myers, c'est le cas de Freddy, c'est le cas de plein de Boogeyman comme ça. Et Candyman dans le 92, il me semble qu'il véhicule ça tout seul sans que ça soit forcé, quoi. Et là, je trouve qu'en forçant le truc, bah, on le caricature et ouais, ça perd de sa puissance.
Ouais. Bah écoutez, moi, voilà, pour conclure, je trouve que c'est quand même dommage parce qu'on perd toute la poésie du 1992, que je vous invite vraiment à voir parce que en disant rien dans le 1992, ils en disent plus que dans celui-là, tu vois. Je trouve ça beaucoup plus intéressant déjà en termes de mise en scène. Et en termes de plein de choses, juste pour le spectacle et le divertissement, allez mater
l'appart, mon frère. Ouais. Putain, comment il est bien.
L'appart est bien, voilà. L'appart est bien. Bon, on a un peu craché sur le film, mais désolé, hein, c'est comme ça. On est un peu unanime. Hein. J'attends quand même un film avec plus de débats, histoire que ça envoie un peu plus dans le débat, quoi. Mais bon, écoute, quand c'est de la merde, c'est de la merde, on le dit. Hein.
Ah oui, radical.
Est-ce que, du coup, les journalistes ont dit que c'était de la merde? Ah, on va le savoir avec notre nouvelle chronique, la revue de presse.
La revue de presse.
Kevin qui se charge du coup de la revue de presse et qui est parti nous trier comme ça sur le volet les petites critiques les plus croustillantes des journaux français qui font évidemment cette richesse culturelle qui représente l'exception française, n'est-ce pas ?
Nous sommes spécialistes en cinéma. Oui, j'en ai pris quelques-unes. On va dire que l'éventail des avis est assez large. Il y a du bon, il y a du moins bon.
J'entends bien.
Sur la palette des goûts.
Alors d'abord, un petit tour d'horizon des notes. En France, pour Allociné, presse, on est à 2,9 sur 5. Ah, ce qui est...
C'est la moyenne, quand même.
Ce qui est quand même un 11 sur 20. Hein, 11-12 sur 20.
Ce qui est
donc,
bien, mais pas top.
Ça va. Et aux États-Unis, c'est marrant, ils ont mieux aimé. Rotten Tomatoes, c'est 84%.
What?
Donc c'est quand même beaucoup. Et Metacritic, c'est 72.
C'est énorme. Ah oui, mais j'avais lu que c'était un succès.
Oui, bah, aux États-Unis, ouais. À part bon, je ne fais pas la revue de presse américaine.
I don't do that.
On va demander à Brandon.
Non, mais c'est vrai que je ne sais pas si on l'avait dit, mais au box-office américain, elle avait le record pour une réalisatrice noire.
Ouais, ça a carto. Ouais. Ça a cartonné.
Apparemment, ouais. Ça cartonne plutôt. Ça a
carto.
Ouais,
peut-être que
nous, on est cons, on n'a pas compris aussi.
Ça a carto.
On est trop bêtes. Vous voyez que c'est culturel.
Bon, je vais commencer par ceux qui ne sont pas contents.
Ah, ça
et
change.
Oui, je commence par première qui titrait « À moitié malin, à moitié raté ». D'après eux, c'est un commentaire social grabâché, comme pour se dédouaner de ne pas parvenir à le mettre en scène. Et là, c'est violent, quoi. Résultat, Candyman oublie la tension et enchaîne mollement les scènes de meurtre stylisées, entre parenthèses gentrifiées, inopérant dans sa quête de frissons ultimes. C'est de la black horreur programmatique, pas si mal emballée, mais essorée par son manque de subtilité, pour première.
C'est bien dit.
C'est assez bien dit. Et c'est vrai que le thème de Black Horror, c'est intéressant parce qu'on n'en a pas, on a pas parlé tout à l'heure, mais c'est peut-être un nouveau genre qui est en train d'émerger depuis
avec Jordan Peele en tête de liste, j'allais dire.
En tête d'affiche. Libération n'a pas aimé non plus. Hein. Pour eux, c'est un nouvel opus qui est une ressucée confuse et dépolitisée sur fond de critiques pâteuses du monde de la culture. Donc voilà, ça.
C'est pompeux tout ça.
Mais on est dans le journalisme. Hein.
C'est mou et pâteux.
Est-ce que c'est pas des journaux qui prennent mal le fait qu'on critique les critiques?
Ah oui, peut-être.
Ah, c'est possible. Après, je suis allé voir du côté de Criticat, donc le journal des chats, comme disait Romain la semaine dernière. que Nia DaCosta et Jordan Peele, qui pilotent le projet, rappelons-le, souhaitent repolitiser l'horreur est une chose, mais la démarche mérite un peu plus d'attention que cette récupération maladroite d'un sujet brûlant dans un film par ailleurs bourgeois à souhait et à vrai dire vaguement conscient de l'être.
Très vrai.
Et c'est
exactement
très vrai.
Exactement d'accord avec
les
ça.
Les chats sont très très malin.
Miaou DaCosta.
Très perspicace.
Culture au point n'a pas aimé non plus. Hein. Pour eux, cette réécriture de Nia DaCosta et de Jordan Peele n'est qu'une volonté rance d'alimenter les peurs collectives et les méfiances communautaires sous couvert de popcorn movie censément efficace. Donc ça taille. Hein. Ça taille et s'est pris beaucoup de points dans la gueule ce film. Mais heureusement,
le journal du geek.
Il y a
Eric Neuf.
des gens.
Il y a les cahiers du cinéma, c'est ça.
Cette semaine, j'ai pas les.
Durandal a adoré.
Non, c'est pas ça. Heureusement, les cahiers du cinéma ont aimé le film.
Incroyable.
Et oui, parce que c'est un film très nouvelle vague, en fait. Au fond, c'est des bourgeois qui parlent de problèmes bourgeois et qui méprisent.
Moi, je pense que.
L'analyse de Kevin, j'adore.
Une réunion de rédac au cahier du cinéma, c'est genre, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la revue de presse? Ils ont tous aimé, et dans ce cas-là, on déteste. Et vice-versa, voilà. c'est incroyable.
Donc on a pris quand même une petite citation, une petite exégèse des cahiers du cinéma, ils aiment bien ça. Excusez-moi. La mise en scène, souvent impressionnante, se pose dès le générique en miroir du film original, parcourant la ville non plus en une succession de plongées à pic, mais en contre-plongées. L'horreur, qui est fondamentalement affaire de transmission, de contamination ou d'héritage, jaillit de ce double geste de reprise. Et ça, c'est du journaliste, on s'en fout.
Oui, sauf que ça dure deux minutes, quoi. Après, il y a un film, quoi. C'est ça le problème. C'était très joli au début.
Candyman, j'ai encore moins compris la critique.
C'est les cahiers.
C'est les cahiers, ça donne mal à la tête, ils pourront les faire algan.
Le Monde a plutôt, le Monde a plutôt apprécié le film aussi. Hein. Pour Candyman cru 2021, Avatar réussi du film d'horreur à sujet, réinterroge habilement le mythe d'origine à la lumière de l'évolution, notamment urbaine et sociale, de la société américaine. Bon, analyse sociologique,
Je pense que les gens qui sont un peu éloignés de tout ça le prennent bien parce que c'est.
Non, mais ok, là c'est l'idéologie. Enfin, je veux dire, je veux bien comprendre, tu vois. Je comprends encore une fois le message. Oui, ok, d'accord, il faut pas taper. Sur peu importe ta couleur, tu
il faut
tapes
pas taper.
Mais fais un film bien, sinon, pour raconter ça, tu vois. C'est ça, c'est ça.
Mais tu vois, le Nouvel Observateur n'est pas d'accord avec toi.
Ah.
Mais moi, parce que le Nouvel Observateur dit que c'est une réactualisation maligne d'un petit classique du cinéma d'épouvante de 1992. Alors, petit classique, je trouve que c'est un peu méprisant parce que c'est pas un petit classique, c'est un vrai classique du cinéma fantastique. Remettons-le à sa place. Il rajoute, on perd en ambiguïté et en émotion ce qu'on gagne en esthétisme, arty et sous-texte politique.
Mais tu sais, au fait, ce que tu lis là, ça me fait penser au fait que Jordan Peele, il a fait une série qui s'appelle Hunters, je crois, un truc comme ça, où il y avait eu ce genre de polémique. En fait, la série parle de chasseurs de nazis. Donc, c'est des personnes juives, je crois, si je dis pas de bêtises, qui retrouvent des nazis. Et justement, la série avait été beaucoup critiquée pour l'esthétisation de la mort, juste de la mise à mort des nazis et de la façon dont, j'ai pas vu la série, mais il y a eu beaucoup de critiques sur la façon dont le propos est tenu dans la série, quoi.
D'accord.
Et j'ai Tarantino l'impression qu'on retrouve ça un peu dans ce film, ça m'a fait penser.
Ouais. Ouais. Bah, en fait, tu te venges par l'art, quoi. C'est un peu ça, quoi, mais bon.
Et bah, du coup, je vais conclure par Télérama, qui est un peu la Suisse dans le débat, hein, et qui dit que même brouillon, le pamphlet atteint sa cible en fustigeant un siècle de racisme aux États-Unis, du lynchage de descendants d'esclaves aux violences policières actuelles.
D'accord, pour eux c'est un seul siècle ça.
Pour eux c'est pas. D'accord. Après,
ça a commencé en 1912.
C'est ça.
Pas avant.
C'est ça.
Pile poil au moment où le Titanic il a coulé. Coïncidence ? Je crois pas
après,
trop. Non.
Après, vous vous doutez bien qu'on peut pas être critique de cinéma et sociologue. Hein, mais.
Ah bah ça.
Mais là t'as lu toutes les critiques là ?
Tu es dû.
J'ai lu toutes celles que j'ai choisies.
Non, t'en as oublié quelques-unes, je crois.
Mais après, je suis pas abonné à tous les journaux.
Ouais, mais je crois que t'en as oublié quelques-unes.
Écoute, moi j'ai eu, très surprise, j'ai ouvert un carambar et il y avait une critique du film dedans. ça disait bon, un peu déçu vu comme la place de ciné m'a coûté bonbon.
Ah.
Ouh,
ça c'est vraiment carambar, niveau
quoi.
Black carambar.
Ah, c'est carambar, magazine, écoute, très surprise.
C'est-à-dire que même jusque-là, jusqu'au point de décevoir un mec qui est censé écrire des black carambar pour gagner sa vie et qui s'est dit je vais en glisser une dans un petit bambec. Ah là, putain, film de merde. Hein.
Parce que j'en avais lu une aussi dans mon journal préféré que je lis de façon hebdomadaire. Ça disait quelque chose, alors je le dis de tête, hein, mais c'était quelque chose du genre très mauvais slasher, pas assez d'effusion de sang, on veut du gore, on veut du gore. Le journal de Mickey.
Oh oui, c'est vrai.
Ça a changé ton âge de Mickey.
Anaïs, 8 ans.
Les courriers des lecteurs.
Anaïs, 8 ans.
Qui fait sa petite manif. On fait du gore.
Ça ira sur l'affiche. Peut-être qu'il y a d'autres critiques comme ça qui traînent.
Et non, je crois.
Et non, pas. Non. Bah, personne. Bah écoutez.
On a tout lu.
Écoutez, je crois que sur cette bonne tranche de rigolade, on va se dire au revoir en concluant.
face is an intellectual process. But suspense is essentially an emotional.
Voilà, c'était le match retour de Candyman. Un film que vous pouvez ne pas aller voir. Hein. Contentez-vous de regarder votre miroir, peut-être en disant Candyman, vous passerez peut-être un meilleur moment que devant ce film à la con. Non mais c'est pas ça, mais je veux dire, si vous vous intéressez peut-être à ce genre de film, comment tu as dit, un nouveau genre là,
Black Horror. Ils appellent ça le Black Horror.
Black Horror, on vous renvoie vers les premières productions de Jordan Peele en fait, tout simplement, qui sont beaucoup plus intelligentes et sur lesquelles il y a beaucoup plus d'analyse à se faire et c'est croustillant et en même temps t'as du ciné quoi. Donc bref, pas très bien reçu de la part de Feta Béa, tu n'as pas Laval. Et d'ailleurs,
et mieux vaut habiter Laval qu'Aval habite.
Exactement. Oui. Pour la semaine prochaine, nous match retournerons.
Mais quel film ?
James Bond
007.
Mourir peut attendre, que nous match retournerons évidemment et qui sera du coup l'épisode spécial BA que vous pouvez trouver juste au-dessus, en dessous, à côté, je sais pas quelle plateforme d'écoute vous utilisez, mais nous sommes présents sur toutes les plateformes d'écoute. Notre site fetaba.fr, les réseaux Facebook, Instagram, Twitter,
TikTok, Snapchat.
Malheureusement, pas encore. J'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait, mais
Faut que tu danses.
Faut que tu danses.
On danse pas assez, je pense.
Faut que tu danses. Bah écoutez, allons danser, c'est parti. Et ben, je vous dis au revoir, les gars. Arrivederci.
Arrivederci.
Ciao, ciao.
Salut.
Arrivederci. 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 Arrivederci.